c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
De l'origami dans un univers marin, c'est la nouvelle proposition de Bombits. Voici Sea Salt and Pepper, un petit jeu de cartes qui tient dans une main de Bruno Catala et Théo Rivière. Les photos des cartes ont été réalisées à partir d'origami, des bateaux, des pingouins, des poissons ou encore des requins. Dans Sea Salt and Pepper, il faudra collectionner des cartes et les comboter. C'est aussi un jeu de prise de risque que vous verrez lors de la fin de partie. Mise en place rapide, vous avez une pioche et vous révélez deux cartes. Il y aura donc deux défausses. Pour la mise en place, c'est terminé. Maintenant, comment on joue? Eh bien, à votre tour, vous piochez deux cartes de la pioche, mais vous n'en gardez qu'une seule. L'autre, vous la déposez sur l'une des défausses, ou bien vous prenez la première carte de l'une des défausses. Rien de bien compliqué jusqu'à maintenant. Ensuite, eh bien, je peux poser des cartes de mon jeu si je souhaite faire des combos. J'ai deux bateaux, je peux les poser. En plus de me rapporter un point en fin de partie, de me permettre de faire une action. Avec deux bateaux, vous pouvez rejouer. Avec deux crabes, vous pouvez regarder la défausse et choisir une carte supplémentaire. Avec deux poissons, vous pouvez piocher la première carte de la pioche. Je peux continuer à faire des actions tant que c'est possible et que mon jeu le permet. Si par hasard j'ai un plongeur et un requin, eh bien, vous pourrez aller voler une carte à un autre joueur. Ce sont les cartes qui produisent des effets et qui rapportent un point en fin de partie. Mais il y a aussi les cartes que vous allez laisser secrètement dans vos mains et qui vous rapportent des points quand la partie est terminée. C'est le cas des pieuvres, des pingouins, des marins ou pour les coquillages qui, eux, vous rapportent 0 points si vous n'en avez qu'un, mais qui vous donnent 10 points si vous en avez 6. Bon, c'est pas évident puisqu'il y en a que 6 dans le jeu, mais si vous en avez 3, c'est déjà 4 points d'assuré. D'autres cartes vous feront gagner encore des points, le capitaine, la colonie de pingouins, le banc de poissons, ou pour l'exemple, le phare, qui lui vous fera gagner un point par carte bateau que vous avez. Dans Sea Salt and Pepper, il y a donc pas mal de possibilités de faire des points. D'ailleurs, si vous arrivez à 7 points, entre les cartes posées et celles de votre main, vous pouvez décider de stopper la manche. Dans ce cas, chaque joueur va compter ses points, sachant que le but est d'arriver à 30 points, autant dire que vous allez faire plusieurs manches. Mais si vous êtes joueur, eh bien vous pouvez tenter la dernière chance. Mais c'est à vos risques et périls, car si vous le faites, c'est que vous pensez avoir plus de points que vos adversaires. En plus, les autres joueurs ont un dernier tour pour faire des points. Si vous avez plus de points qu'eux, eh bien vous marquez vos points plus un bonus couleur, celle la plus présente dans votre jeu. Je fais 13 points, j'ai 3 cartes jaunes, ça me fait 16 points. Les autres joueurs ne marqueront que le bonus couleur, exemple, Johan n'a pas réussi à me dépasser, il a 2 cartes bleues, c'est sa couleur la plus présente, il marquera donc 2 points. Vous voyez, ça vaut le coup d'aller en dernière chance, mais oui, car il y a un mais, forcément, si vous perdez votre pari et qu'un joueur a plus de points que vous, tous les joueurs marquent leurs points et vous ne marquez que le bonus couleur. Dans Sea Salt and Pepper, vous pourrez rencontrer également des sirènes. Les sirènes vous permettent de faire plus de points car elles vous rapportent autant de points que votre meilleure couleur. J'ai 3 jaunes et une sirène, ça me fait 3 points de plus. Une deuxième sirène, dans ce cas, on utilisera votre deuxième couleur. Et ainsi de suite, si vous avez 4 sirènes, ce qui est quand même assez rare, vous gagnez immédiatement la partie, vous oubliez les 30 points, vous gagnez et vous pouvez chanter à tue-tête sous l'océan, faites-vous plaisir, ou bateau sur l'eau, comme vous voulez. Parfois, les meilleurs jeux peuvent tenir dans la main, et c'est le cas avec Sea Salt and Pepper. Je sais pas vous, mais à force de voir les photos des cartes en origami, ça me donne envie de faire un petit phare. Ça tombe bien, puisque dans 3 minutes, Pierre-Yves Gallard, l'origamiste du jeu, sera avec moi. Harry Style pour la musique. Et juste après, on retrouve donc mon invité.
C'est Ludique, l'invité de la semaine.
Il est origamiste et c'est lui qui a fait les origamis qui sont utilisés pour les illustrations de Sea Salt and Pepper, le nouveau jeu de Bruno Catala et Théo Rivière chez Bombits. C'est Pierre-Yves Gallard. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour.
Alors avant d'évoquer les origamis du jeu, on va parler un petit peu de vous. Comment vous êtes arrivé à faire de l'origami?
Au départ, tout simplement en imitant des modèles à partir de vidéos sur YouTube.
D'accord.
En reprenant des modèles qui avaient été créés par d'autres. Il y a beaucoup de tutoriels qui circulent et qui permettent de se lancer très facilement avec juste un bout de papier et puis une vidéo. J'ai démarré comme ça il y a quelques années de ça.
Et quels sont les modèles que vous avez créés ou que vous préférez créer?
J'ai créé beaucoup de modèles de personnages.
Ouais, j'ai vu
j'aime
ça, ouais.
Bien les petits personnages un peu cartoon, un peu expressifs en fait. J'ai un goût particulier pour ce genre de modèles. Et puis sinon des animaux beaucoup.
Et alors comment on crée finalement de nouveaux modèles? Vous dites qu'il y a des tutos comme ça sur YouTube, mais comment on crée un nouveau modèle?
Il y a plusieurs méthodes. Il y en a une, c'est la bidouille.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on va partir d'une idée très brouillonne et puis faire un certain nombre d'essais Et à partir du moment où on obtient un résultat satisfaisant, eh ben on essaye de rationaliser pour avoir quelque chose de reproductible. Ça, ça marche bien pour des modèles assez simples. Et puis, quand on a vraiment une idée, on se dit « Allez, je me lance là-dessus et j'improvise. » Et lorsqu'on cherche à faire quelque chose d'un peu plus complexe, un modèle avec plus de détails, par exemple, là, en général, on est obligé de passer par un plan d'abord. D'essayer de réfléchir comment je vais organiser ma feuille de papier. Avant de se lancer dans le pliage, de se dire, si je veux faire un crabe, les pattes du crabe, je vais utiliser telle partie de la feuille, les pinces, je vais utiliser telle partie, etc.
Et alors justement, cette feuille, elle est découpée ou pas du tout? On fait vraiment tout à partir de la feuille sans découpe?
Traditionnellement, dans l'origami, c'est une seule feuille, en général carrée, et sans découpe et sans colle.
D'accord.
Voilà. Alors après, moi, il m'arrive de faire des modèles à partir de plusieurs feuilles. Mais je me tiens à la règle de pas de découpe et pas de colle.
D'accord. Voilà. Okay.
L'idée, c'est qu'on puisse déplier le modèle pour montrer à un spectateur comment c'est fait. Et le replier, comme ça. Virtuellement, de manière indéfinie, mais. Il y a un moment, la feuille finit par déchirer quand même.
C'est le cas pour les illustrations du jeu de chez Bombix?
C'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de découpe, il n'y a pas eu de
collage. Il n'y a pas eu de découpe pour les modèles. Non, ils sont effectivement en origami. Certains sont faits à partir de plusieurs feuilles.
D'accord.
Ce qui permet parfois aussi d'avoir plus de couleurs, puisque une feuille n'a que deux couleurs, un recto, un verso, si on veut un modèle avec plus que deux couleurs, c'est le cas pour la sirène par exemple, là je vais utiliser deux feuilles, ce qui me permet d'avoir une couleur pour les cheveux, une couleur pour le buste et une couleur pour la queue.
D'accord, c'est comme ça qu'on retrouve les différentes couleurs sur les origamis.
C'est ça, c'est parce qu'en gros on a une feuille qui peut être peinte d'un côté, donc ça nous fait un modèle bicolore en utilisant une seule feuille, et si on veut augmenter le nombre de couleurs, on augmente le nombre de feuilles.
Et alors, comment ça s'est passé avec Bombix? Vous les connaissiez avant? Ils connaissaient votre travail?
Non, on ne se connaissait pas.
D'accord.
Moi, j'avais déjà joué à des jeux qui avaient été édités par Bombix.
Ouais.
Mais en fait, c'était le projet de la personne chez Bombix, Laura Rouquier, qui était en charge de Sea Salt and Paper.
D'accord.
Son projet était de faire des illustrations à base d'origami, vrais origami pris en photo, plutôt que d'origami dessiné.
D'accord.
Et donc, elle s'est renseignée sur les origamistes français. Elle a pris des informations via Internet dans un premier temps, et c'est comme ça qu'elle est tombée sur mon travail.
Vous avez été surpris par leur demande pour un jeu de cartes, finalement?
Séduit surtout par la demande, plus que surpris, très enthousiasmé, parce qu'effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est la façon dont les origamis et leur mise en scène peuvent raconter des histoires. Donc, comme illustration, effectivement, je trouvais que ça pouvait bien fonctionner. J'y aurais pas pensé forcément pour un jeu de société.
Ouais, c'est la première fois que vous faisiez un jeu.
Oui, exactement. Ouais. Mais c'est très intéressant aussi d'échanger avec les éditeurs, justement parce que ils ont en tête les créateurs du jeu et les éditeurs des paramètres très importants pour les joueurs que les illustrateurs doivent avoir bien en tête sur la lisibilité des cartes, sur l'absence d'ambiguïté. Lorsqu'on fait un modèle, il faut absolument qu'il soit reconnaissable et qu'on puisse pas le confondre avec une autre carte du jeu, que les règles soient aussi explicitées par l'image.
D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils sont tous différents sur les cartes.
Oui, il y en a quelques-uns qui sont... Les cartes sont toutes différentes. Après, parfois, c'est le même modèle photographié sous un autre angle, ça arrive. Mais effectivement, on a voulu qu'il y ait des familles de cartes, mais que, par exemple, à l'intérieur des poissons, on n'ait pas deux fois la même carte poisson.
Ouais.
Soit un modèle différent, soit un fond, soit un papier différent pour plier le modèle, C'était un peu l'idée, c'était cette abondance.
Je suppose que vous êtes content du résultat du jeu?
Oui, je l'ai reçu j'ai reçu les exemplaires d'illustrateurs là il y a une dizaine de jours, et j'étais très impatient de voir ce que ça donnait une fois imprimé, et je suis très content de ce que ça donne,
Combien vous avez mis de temps à créer ces différents modèles?
Je pourrais pas vous le dire. Non, mais ne serait-ce que parce que, en fait, le principal obstacle à la réalisation du projet, quand on me l'a présenté, c'était le temps de création des nouveaux modèles.
Bien sûr.
Pas de pliage des modèles déjà conçus, mais de création de modèles à partir de rien.
Il y avait des modèles que vous aviez déjà conçus qui ont
Et
été repris.
Voilà. Ouais, en fait, on a réfléchi de manière stratégique et on s'est dit que puisque j'avais déjà créé un certain nombre de modèles sur l'univers marin, on allait partir sur l'univers marin. Comme ça, ça faisait moins de créations nouvelles. Et
D'accord.
puis, je me suis aussi associé à un autre origamiste, Lucien de Rennes,
oui.
Avec qui je m'entends très bien et qui, lui aussi, avait, je le savais, un certain nombre de créations à son actif dans le domaine maritime.
D'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a eu quand même des nouveaux modèles de créer, mais on est parti quand même sur une base, quoi.
Voilà, on avait déjà quelques idées et quelques modèles de faits. Et puis ensuite, le requin, les crabes, le poulpe, la sirène, tout ça, c'est des créations pour le jeu.
D'accord.
Mais par exemple, le manchot existait déjà auparavant. Le phare, les bateaux existaient aussi.
Ouais.
Voilà, on a fait une sorte de panachage entre des modèles créés pour le jeu et d'autres qu'on avait déjà créés auparavant ou qui sont des modèles traditionnels. Le petit bateau qui est sur la couverture, c'est le bateau qu'on plie dans les cours de récré, en fait.
Oui, oui. En tout cas, je pense qu'on va voir beaucoup vos origamis, hein, puisque, à mon avis, ce petit jeu-là va cartonner pour les fêtes. Il y a une chose aussi qui est importante quand on crée comme ça des modèles. Moi, je les ai vus à Vichy, ces différents origamis. C'est magnifique. Est-ce que vous allez faire des expositions avec ces modèles-là?
Il va y en avoir quelques-unes, oui. Pas mal. Moi, j'ai l'habitude d'exposer dans des conventions d'origamistes, c'est-à-dire des rencontres de quelques jours autour du pliage où il y a des ateliers. Donc là, de toute façon, j'ai l'habitude d'exposer les modèles que j'ai créés récemment. Donc là, il y en a une qui est prévue à Lyon fin octobre. Et ensuite, une exposition sur le thème de Sea Salt and Paper. C'est bon, pas particulièrement prévu pour l'instant, dans les salons quand même, dans les salons de jeux, je crois que Bobix a prévu de transporter des modèles, oui.
On va certainement retrouver vos origamis du côté des scènes, c'est fort probable.
Oui, voilà, c'est un peu l'idée. Ouais, ouais.
Est-ce que du coup, pour ceux qui veulent créer de l'origami, est-ce que vous proposez des tutos pour les origamis de Sea Salt and Pepper ou...
Pour ceux qui veulent reproduire des origamis,
oui,
c'est ça.
Ouais.
Eh bien, il y a sur mon site internet le phare, par exemple, qui est un des modèles du jeu.
D'accord.
Il est en libre accès.
Ouais.
Et puis oui, j'ai prévu de publier d'autres diagrammes pour expliquer étape par étape comment obtenir certains modèles. Le bateau, le pingouin, le crabe. Voilà.
D'accord.
C'est en cours. Certains sont déjà publiés, d'autres vont l'être progressivement.
Et quel conseil vous pourriez donner à un débutant qui veut se lancer dans l'origami?
De commencer par des modèles simples, de plier beaucoup des modèles créés par d'autres,
ouais.
Pour acquérir comme une sorte de solfège en musique, acquérir des bases, et puis te faire plaisir sur les modèles qui lui plaisent. Il y a vraiment un choix énorme. Moi, je trouve que YouTube est un très bon moyen pour débuter, parce que on peut se lancer vraiment, il suffit d'avoir une feuille de papier en fait. Et
ouais.
Tout le reste est à portée de main. Les vidéos, ça permet de pouvoir repasser les étapes compliquées plusieurs fois. Voilà. Ensuite, on découvre petit à petit ce qui nous plaît. Et puis, si vraiment on accroche, on progresse. Et puis, on peut se lancer soi-même dans la création.
Ah bah super. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Yves, d'avoir été dans C'est Ludique.
Ben, merci à vous.
Et bonne journée. Au revoir.
Bonne journée. Au revoir.
C'est Ludique, votre émission sur les jeux de société.
Et vous le savez, le mardi, c'est Festi-Ludique. On retrouve Marie.
Bonjour.
Bonjour,
et
Marie.
J'étais à Lyon, à Octogone.
Alors là, on va faire un petit débrief, Marie, du côté d'Octogone. Qu'est-ce qu'il y a eu du coup? Est-ce que déjà, c'est un grand salon ou pas?
Alors, oui, c'est quand même assez grand. Là, sur les chiffres, ils ont accueilli 11 000 personnes sur les 3 jours.
D'accord, ouais.
La grosse particularité du festival, contrairement aux autres, déjà, c'est que c'est une convention et ça ne ferme jamais.
Ah oui.
C'est-à-dire que ça ouvre le vendredi à 14h,
ouais.
Et ça ferme le dimanche à 19h.
D'accord.
Et entre-temps, c'est ouvert non-stop.
Non-stop.
C'est-à-dire que la nuit, il y a beaucoup de gens qui restent. Alors nous, on est parti à 2-3 heures du matin.
Oui, il faut aller dormir quand même.
Il y a des gens qui jouent encore. Oui, oui, quand même raisonnable. Et on revenait à 10 heures.
Ouais.
Mais il y a des gens qui venaient directement à partir de 6 heures du matin. Enfin, c'est assez...
D'accord.
C'est cool. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, on n'a pas la pression de se dire « Oh là là, le festival est fermé à 20 heures,
ouais.
On doit finir notre partie en express. »
C'est ça.
« Oh là là, j'ai pas eu le temps de faire ça, etc. » En fait, on part quand on en a envie, donc c'est assez agréable de ne pas avoir cette pression.
Comme à Vichy, où on s'est fait virer à minuit parce qu'il bah, fermait, quoi.
Oui, bon déjà, minuit, c'est pas mal.
C'est pas mal, minuit, c'est vrai, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que tu as vu de... Alors, tu étais marraine, je crois, déjà, de ce festival.
Oui, tout à fait. J'étais marraine du festival, donc j'étais invitée là-bas sur place. Après, marraine, ça consistait surtout pour parler un petit peu du festival en amont. Mmh. Et ensuite, à Octogone, il y a plusieurs prix. Il y a le prix Octogone,
d'accord.
Où ils ont sélectionné des jeux dans les quatre catégories Paris-Calas d'Or.
Ouais.
Et l'idée, c'est que le public vote. Donc, il faut que le public joue à au moins trois jeux dans une catégorie pour avoir le droit de voter.
D'accord.
Ce que je trouve assez, assez
ouais,
chouette.
C'est bien,
coup,
ouais.
Ça évite d'en jouer qu'à un seul et de voter pour celui-là. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le prix Protogone, où il y a beaucoup, beaucoup de gens qui viennent avec des protos.
Ouais.
Et on remet les prix. Ce qui est hyper sympa aussi dans ce festival, c'est que la zone de proto, elle n'est pas à l'écart, contrairement à d'autres festivals, tu vois.
D'accord.
Elle est vraiment mise en avant. Elle est à côté de la buvette, elle est au milieu de la salle. Et ça, c'est vraiment assez chouette. Et du coup, nous, en tant que marraine, le dimanche soir, on a remis les prix. Donc voilà, ils ont comptabilisé le nombre de voix. Et on a remis les prix aux vainqueurs.
Alors, qui a eu ces prix?
Oula, alors, en enfant, on a eu Dodo.
Dodo. Mmh.
Dodo, chez Yellow. En tout public, on a eu Bloody Harry. Et alors, ce qui était rigolo chez Bloody Harry, c'est qu'il y a 3 ans, à Octogone, ils ont eu le prix du Protogone.
D'accord.
Et du coup, 3 ans après, ils ont eu le prix Octogone, puisque le jeu a été édité chez Yoka, etc.
D'accord.
Donc, c'était assez chouette. En initié, on a eu un jeu qui n'est pas encore sorti, et du coup, moi, je ne l'ai pas testé, mais c'est Mandala.
Mandala, d'accord.
Voilà. Et en expert, c'est Pagan, de Super Meeple.
D'accord, ok.
Mais en expert, ça s'est joué à une voix, et l'autre, c'était l'ordre de veille, quelque chose comme ça, le titre. Et du coup, c'était très serré, c'était assez rigolo.
Et alors, pas. Est-ce que tu as découvert des nouveaux jeux ou non?
Alors, j'ai pas trop découvert énormément de nouveaux jeux en effet, parce que du coup, bah forcément, j'étais à Vichy avant, j'ai fait pas mal de festivals, et que mine de rien, par rapport à l'année dernière, il y avait quand même pas mal de monde le samedi, donc moi, je pensais y aller chill et tout, et puis du coup, il y avait pas mal de tables prises. J'ai quand même fait quelques petites découvertes.
Ouais.
Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité pour présenter des jeux à des gens.
D'accord.
Et j'ai du coup pu rejouer. J'ai fait 4 parties de Valbara sur le week-end.
Ouais.
Donc, le prochain jeu qui sortira bientôt chez Studio H.
Ouais.
Et c'est vraiment, vraiment un coup de cœur. Et voilà, c'est pas un coup de cœur à chaud d'un jeu en festival. Là, j'ai fait 5 parties en tout.
Ouais.
Et vraiment, c'est cool. C'est hyper
pas
bien illustré.
C'est pas le jeu où on a un petit côté Libertalia?
Oui, je pense, on a un petit côté Libertalia, on a un petit côté Love Letter aussi.
Ouais.
On a des cartes avec des numéros, avec des pouvoirs, et en effet, on va en choisir une, on va la jouer. Celui qui a le plus petit chiffre va jouer en premier. Ensuite, on va récupérer des lieux, et ces lieux, ils scorent différemment, et ils scorent à l'instant T. Donc, on marque aucun point à la fin de partie, c'est vraiment juste de l'instant T. Et ça fonctionne, ça roule en fait.
Ouais.
C'est 15-20 minutes une partie, et ça fonctionne à merveille. Et ça, j'ai trouvé ça... super. Et en plus de ça, c'est hyper bien illustré.
On le présentera bientôt dans C'est Ludique.
Ouais, j'imagine déjà les prochains cosplays, make-up que je vais pouvoir faire.
Ah bah oui, forcément, eh oui. T'as le temps encore d'en faire, hein?
Alors là, en ce moment, j'en ai fait et j'ai fait les photos, mais j'ai juste pas pris le temps de les publier. Mais ouais, dès que j'ai un peu de temps, j'aime beaucoup en faire.
Et alors du coup, donc ça c'est le jeu que tu as le plus joué sur...
le plus aimé.
Le plus oui. aimé. Et il y en a... Et donc celui que tu as... Est-ce que tu as vu les gens qui aimaient un jeu en particulier? Il y a un jeu où il y avait la table, tu sais, elle était prise, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dessus.
Bah il y en a un que j'ai jamais vu vide la table et j'aurais bien aimé le tester, ça a été Oricalque de chez Ketchup.
Ah bah oui, ouais.
Bah ouais, celui-là, mais du coup, j'ai encore pas eu le temps de le jouer, donc j'espère le jouer au prochain festival.
D'accord.
Et sinon, j'ai pu tester Flamecraft.
Flamecraft, ouais. Avec les petits dragons, là.
Exactement. Et j'ai joué sur la version caisse, avec les petits dragons
ah bah
en plastique
oui.
tout mignons et tout, c'était vraiment chou. Et je l'ai trouvé mignonnet, alors très, moi je le trouve assez familial, très facile à prendre en main. Au niveau des actions, il n'y a que deux actions possibles.
Ouais.
Du coup, c'est assez fluide. Mais c'est surtout que c'est, les illustrations sont hyper mignonnes,
oui.
Les petits dragons.
C'est sûr, les petites boutiques là et tout et tout, quoi.
Oui, exactement. Et chaque carte est complètement différente. Donc en fait, ils ont refait les illustrations pour même les dragons de même famille. En fait,
ouais.
Chaque carte est différente. Donc ça, c'était chouette. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps. Et en fait, ce qui est cool dans cette convention à Octogone, c'est que dans la salle du haut, il y a des salles qui sont rajoutées, tu vois, des salles un peu de préfabriquées,
mm-hmm.
où il se passe des conférences, des GN, d'initiation, enfin beaucoup de choses d'initiation. Et moi, j'avais été en tant que marraine, on m'avait proposé de venir le samedi soir à participer à un loup-garou.
D'accord.
Mais qui était organisé par une assoce qui font ça. Et ils ont refait pas mal de règles, c'est des loups-garous américains ou japonais, ils reforment un peu tout ça. Et du coup, c'était assez rigolo de faire ça donc pendant une heure et demie, où on a rejoué le loup-garou. Ça faisait super longtemps que j'avais pas, moi, rejoué le loup-garou.
C'est vraiment moi aussi.
Et du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, c'était cool comme découverte.
Eh ben, super.
Comme redécouverte.
Merci beaucoup, Marie. Et on te retrouve forcément mardi prochain. Tu seras de retour.
Exactement.
Des scènes. Hein.
Exactement, donc, je serai de retour des scènes.
Et donc là, je pense que tu auras beaucoup, beaucoup de choses à dire.
Oui, j'aurais beaucoup de choses à dire et encore à chaque fois, j'ai jamais assez le temps de parler. Et puis juste que je termine sur Lyon en disant que c'est vraiment un festival qu'il faut tenter, qui n'est pas assez connu par les éditeurs et par le public, mais que vraiment il s'oriente sur du JDS au lieu du JDR.
Ouais.
Et avec les deux. Et donc les deux, ça fait un beau mélange, ça change d'habitude et vraiment, moi, je le conseille mille fois. Les bénévoles sont incroyables aussi, donc voilà.
Merci.
L'année prochaine, français.
Merci Marie, et on se retrouve mardi, et bon festival,
oui,
à SN.
Merci beaucoup.
Salut,
bonne
profite
journée.
Bien.